Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Nous entamons une série de 5 émissions documentaires pour nous présenter la psychogénéalogie. Aujourd'hui, première partie, la mémoire familiale, une enquête dans le monde du transgénérationnel. Une émission de Bénédicte Niogré, réalisation Claude Giovannetti, diffusée le 30 juillet 2005.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. La voix des ancêtres. À l'encontre d'une tendance de la génération précédente qui s'inscrivait dans l'idée que l'on pouvait faire table rase du passé, nous constatons aujourd'hui un besoin général d'approfondissement de nos origines. C'est le but notamment de la psychogénéalogie, nouvelle science humaine en prolongement de la psychanalyse, qui vise à rechercher les empreintes psychologiques que nos ancêtres ont pu laisser en nous, le plus souvent à notre insu, et qui peuvent néanmoins éclairer nos comportements actuels. Empreintes, telle l'empreinte d'un pied sur le sable, la marque qui tente à signaler qu'autrefois il y avait quelque chose, là où il semble qu'il n'y ait plus rien. L'empreinte familiale s'ajoute alors à l'empreinte digitale, comme support de l'identité. La mémoire familiale a aussi d'autres lieux que le cabinet du psy pour se manifester à nous. D'autres circonstances y contribuent. Apparition d'une maladie, relation mère-fille, récit de vie, sont souvent l'occasion de prendre conscience de pans cachés de notre héritage. De nouveaux métiers ont émergé pour accompagner cette démarche. De nouveaux outils se sont forgés. Et c'est ainsi de tout un courant de pensée dont il s'agit, chez des thérapeutes, sociologues, universitaires, écrivains, qui tous cherchent à réhabiliter avec nous une approche transgénérationnelle de notre histoire.
Ceci, par exemple, est une photo du Red Rock, du rocher rouge du milieu de l'Australie où je suis allée.
Anne Ancelin Schutzenberger.
Et là, ils refont tous les matins leur histoire sur le sable. Et leur histoire, c'est qu'ils descendent de l'esprit du grand rocher. Et donc, ils refont l'histoire de l'époque glaciaire à la nôtre. En une demi-heure, tous les matins, ils se rattachent au cosmos. C'est comme ça qu'ils vivent, par exemple. Les Esquimaux racontent une histoire. Il y a une transmission de l'âme des Esquimaux. Beaucoup d'Africains, pareil. Et alors, les Japonais, le culte des ancêtres qu'ils ont, c'est extraordinaire. Les Chinois aussi. Donc, je veux dire, beaucoup de civilisations ont un rapport avec les fantômes, les passés, les ancêtres. On a beaucoup travaillé pendant des siècles sur les anges gardiens, l'esprit malin qu'il fallait chasser du corps. Il y a une tradition juive kabbalique du Dibouk qui est l'esprit de quelqu'un qui prend l'âme et le corps de quelqu'un d'autre. Il y a Ah bah écoutez, dans la Bible, bah c'est déjà écrit dans Ézéchiel et Jérémie, les parents ont mangé des raisins trop verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Je veux dire, ça, c'est connu depuis toujours. Alors, comment on faisait sur les raisins trop verts des parents du temps de la Bible, j'en sais rien, j'étais pas né, vous non plus. Mais à l'heure actuelle, on est bien obligé de se débrouiller avec les plaies ouvertes. Moi, j'appelle ça quelquefois des chantiers, des fatras que nous ont laissés nos ancêtres.
Qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Et de manière plus large, ce que l'on nomme maintenant le transgénérationnel. C'est l'idée que notre destinée peut être guidée par l'histoire des générations antérieures. Concrètement, cela peut signifier qu'un événement vécu par un ancêtre, 50, 100 ans auparavant, des exemples remontent à 1000 ans en arrière, peut orienter le choix d'une vie, déterminer des vocations, déclencher des maladies et même provoquer des accidents. J'ai souvenir d'un jeune homme en pleine santé et très sportif qui, à 20 ans, a eu la mauvaise idée de plonger dans une piscine où il n'y avait qu'un mètre d'eau, paraplégique à vie, comme sa mère, qui avait eu la polio à 20 ans. Rien d'héréditaire dans cette approche. C'est par l'esprit et non par les gènes que la transmission se fait. C'est par la psyché que des traumatismes, des non-dits, des secrets peuvent devenir destructeurs au-delà du destin de celui que cela a concerné directement. En prendre conscience pour les descendants, c'est la possibilité de se libérer d'une répétition mortifère, sans oublier que le don du bonheur aussi est un héritage.
J'avais beaucoup de deuil que je n'avais jamais fait dans ma vie personnelle. Il y avait d'autre part dans ma famille beaucoup de décès d'hommes, notamment qui se suicidaient. Et ce qui fait que la place du père était en quelque sorte la place du mort. Et ça, c'était très compliqué. Mais ça, ce que je vous dis maintenant, je peux vous le dire parce que j'ai fait ce travail-là transgénérationnel. Avant, j'étais tout à fait... incapable, je pense, de mettre des mots aussi clairs là-dessus.
Dad de Gainsbourg.
Mais rien n'était véritablement caché. Le suicide n'était pas un secret, par exemple. Mais il y avait des raisons. Certains disaient que mon arrière-grand-père avait été malade physiquement et que c'était pour ça qu'il s'était suicidé. D'autres personnes disaient que c'est parce qu'il était fou. Et c'est très difficile de savoir vraiment. Et je crois que c'est très difficile de comprendre pourquoi les choses se passent. Qu'il y a une volonté, surtout en ce moment, je crois que d'une certaine façon, le secret familial est devenu un équivalent, mettons, de l'amnésie infantile il y a quelques années, et qu'il y a un désir de lever le secret familial, qu'on voit d'ailleurs chez les gens qui viennent consulter, comme si lever un secret familial allait tout changer, allait apporter soudain, très soudain, magiquement, une nouvelle liberté au sujet. Et je crois que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'il ne faut pas aborder les choses comme ça, parce qu'en fait, c'est quand on est confronté à ces événements qui souvent demeurent mystérieux. C'est à ce moment-là que ça commence, le travail. Ce n'est pas parce qu'on a levé un secret ou pensé avoir compris un événement que ça arrange quoi que ce soit dans la vie quotidienne, enfin à mon avis.
Françoise Dolto disait « Ce qui tue à la première génération, la deuxième le porte dans son corps. » L'idée de loyauté invisible accompagne ce processus. Aux États-Unis, l'analyse familiale systémique mise au point par l'école de Palo Alto et en Allemagne, l'approche des constellations familiales élaborée par Bert Hellinger répondent aussi à cette interrogation, mais il n'en sera pas question ici. En France, trois ouvrages font référence en la matière. L'écorce et le noyau, de deux psychanalystes freudiens d'origine hongroise qui travaillaient à Paris, Nicolas Abraham et Maria Turok. Aïe mes aïeux, publié au début des années 80 par la psychothérapeute et groupe analyste Anne Ancelin-Schützenberger, et L'ange et le fantôme, du psychanalyste Didier Dumas, qui élabore une synthèse aussi passionnante que prometteuse entre modernité et tradition.
La vraie structure d'un individu est transgénérationnelle, elle n'est pas individuelle, nous ne sommes pas des êtres individuels.
Didier Dumas.
Le transgénérationnel a l'avantage d'unir, d'une certaine façon, la proposition jungienne d'un inconscient transpersonnel ou transgénérationnel, collectif, et la proposition freudienne d'un inconscient individuel. En fin de compte, le problème que Freud et Jung... Freud ne pouvait pas prendre l'inconscient collectif. C'est lui qui avait défini l'inconscient par rapport au conscient. Hein? Donc il fallait d'abord définir le conscient collectif. C'est ce qu'il a essayé de faire dans la psychologie des foules. Et il écrit sur ce texte à Ferenczi, ce texte frise la banalité. Donc lui-même jugeant que ce texte était très mauvais, personne n'a travaillé depuis, et surtout pas les analystes, puisqu'ils n'ont pas des foules sur leur divan. C'est un métier qui nous introvertit, qui nous met à l'interne, c'est pas un métier qui nous met dans le social. Donc la structure de l'individu est transgénérationnelle, et si on va étudier alors par contre les traditions, vous avez un cycle universel, qui est le cycle des trois générations, on le trouve dans l'entête des 10 commandements. Je suis l'instance responsable, dit Dieu, du fait que les fautes des pères, c'est-à-dire les défauts de parole, on est en voie du verbe, hein, le fait que les pères ne savent pas parler à leurs enfants, ne savent pas transmettre aussi bien la parole que Dieu l'a transmise à Adam, se transmettent sur 3 ou 4 générations. Donc ça, c'est la façon même dont Dieu se présente dans les 10 commandements, donc c'est pas rien. Ce cycle de 3 générations, vous le trouvez par exemple dans Œdipe. Hein? Et quel est l'animal qui, le matin, a 4 pieds, le midi en a 2, le soir en a 3? Ben, ce sont les 3 grandes organisations mentales par lesquelles vous allez passer au cours d'une vie. Et donc ce cycle est universel. À Bali, je l'ai trouvé de façon superbe, puisqu'il se retourne à la 4e génération. C'est-à-dire qu'à Bali, un enfant a les mêmes, comment dire, doit le respect à son père et son grand-père, mais s'il rencontre son arrière-grand-père, ils ont le même âge. On dit, il y a un seul mot pour les désigner, Kumpi, ils sont tous les deux des Kumpi. Ils ont le même âge parce que l'arrière-grand-père a déjà un pied dans le monde des dieux, et l'arrière-petite-fils à lui n'est pas encore sorti tout à fait du monde des dieux, donc ils ont le même âge. Et si un arrière-arrière-grand-père rencontre son arrière-arrière-petit-fils, il doit s'adresser à lui comme si c'était son père. Hein? Donc non seulement le cycle de 3 générations est théorisé, mais il se retourne au bout de 3 générations. Donc, pour vous dire, cette structure transgénérationnelle de l'individu dans laquelle nous sommes constitués de 3 générations, ça se retrouve partout.
J'ai envie, Anne Ancelin, de commencer par une citation que vous avez dans votre livre « Aïe les aïeux » au départ.
Oui.
Une citation de saint Augustin.
Oui.
Qui dit « Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents ».
Exactement, oui.
Est-ce que c'est ce qui vous a guidé au départ de votre démarche?
Beaucoup.
Cette prise de conscience?
Beaucoup. Et c'est une phrase qui était affichée dans le cabinet de psychanalyste Françoise Dolto. Elle m'a beaucoup influencée, Françoise Dolto, dans le travail que j'ai fait. Françoise Dolto a commencé par me demander quel genre de femme était affectivement et sexuellement mon arrière-grand-mère. Je lui ai dit que j'en savais rien. Elle m'a dit « Jamais de la vie, vous savez ». Alors là-dessus, j'ai été étonnée et elle m'a dit « Mais non, les enfants et les chiens chavent tout ce qu'il y a dans une maison ». Et là, ça fait une phrase qui a fait un long, long, long chemin. Françoise Dolto m'a amenée au transgénérationnel et elle m'a surtout aidée à comprendre. Elle disait « On cherche et on trouve l'origine des problèmes chez les grands-parents des grands-parents et pas avant ». Donc, ça m'a beaucoup amené à chercher.
Et alors après, comment avez-vous vous-même fait votre propre chemin dans cette prise de conscience des impacts psychologiques que l'on reçoit ?
Par hasard. Je circule beaucoup et j'ai beaucoup été expert international pour le psychodrame en travaillant dans des pays différents. Et je me rappelle qu'étant en Suède, on m'a demandé si je n'aurais pas la gentillesse de m'occuper d'une Suédoise à Paris qui était en train de mourir du cancer et que personne ne voulait se déplacer et avait peur. Je me suis donc déplacée. J'arrive chez elle et elle me reçoit dans un très bel appartement où il y avait un très très grand portrait d'une femme superbe au-dessus de la cheminée. J'ai pas pu m'empêcher de dire « Oh, la jolie femme qui est-ce ?» Elle m'a dit « C'est ma mère. » J'ai donc demandé bêtement « Elle va bien ?» Elle m'a dit « Elle est morte. » J'ai dit « À quel âge ?» Elle m'a dit « 34 ans. » Je la regarde et je lui dis « Et vous ?» Elle me dit « 34 ans. » Et puis j'ai fait « Oh !» Elle a fait « Oh !» Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser aux transgénérationnels. On voit des gens prendre des risques énormes pour un jour anniversaire. Ou souvent on voit des morts subites ou des accidents arriver le même jour sur plusieurs générations. Je prends un exemple. Quelqu'un dans un groupe me parle d'un accident de voiture minime. Vous savez, quand les groupes, les gens commencent, on dit toujours « Ben, est-ce que... comment ça s'est passé ce matin ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ?» Enfin, une conversation de salon. Et quelqu'un me dit un jour « Ben, j'ai eu un petit accident de voiture en venant, c'est rien des tôles froissées. » Très bien, mais moi, il n'y a pas de petites choses. Et je demande « Mais où et quand ?» Elle me dit « Ben, en conduisant mon fils à l'école. » Très bien. Et je dis « Et c'est arrivé aussi avant ?» Elle me dit « Je ne sais rien. » Mais je dis « Demandez à votre père. » Elle téléphone à son père. Son père lui dit qu'effectivement, en la conduisant la première fois à l'école, il y avait un accident de voiture. Bien. On demande au grand-père. Le grand-père dit « Oui, effectivement. » Alors, le jour de la rentrée scolaire n'est jamais pas tout à fait le même jour, mais c'était le premier jour de la rentrée des classes. On fait 8 générations. Et à la 8e génération, eh ben, c'est un garçon qui n'est pas bien clair, parce que son père venait d'être tué à Verdun, qui n'avait pas de pension de guerre, les veuves ne recevaient rien, et il a regardé l'école sans pouvoir y rentrer. Et ils ont tous, pendant 7 générations, eu un accident sur le chemin de l'école. Voilà un exemple de répétition d'un traumatisme passé.
L'avènement de la psychogénéalogie à la fin du XXe siècle ne semble pas le fait du hasard. C'est plutôt une tentative de notre société occidentale de recouvrer sa mémoire. L'on cherche alors des hypothèses explicatives à ces phénomènes qui paraissent d'abord irrationnels. Comment, en effet, la mémoire familiale inconnue peut-elle ainsi se transmettre? On fait appel au fonctionnement holographique du cerveau, selon les travaux de Karl Pribram, à l'interconnexion espace-temps avec Ilya Prigogine et David Bohm, à la théorie des champs morphiques de Rupert Sheldrake, au concept de mémoire cellulaire, à l'unité duelle mère-enfant, au mécanisme de la psychoneuro-immunologie, où l'idée de syndrome d'anniversaire d'Anne-Ancelin Schützenberger s'expliquerait par une diminution d'immunité à certaines périodes. Et pourtant, pour contemporaines et scientifiques que soient incontestablement ces approches, elles ne font probablement que retrouver les intuitions de la cure chamanique, selon lesquelles il n'y a pas de rupture dans la création traversée par un seul souffle. Nous sommes donc tous porteurs du souffle cosmique et du souffle de notre lignée depuis ses origines. Partir à la recherche de la voix des ancêtres qui parlent à travers nous, c'est retrouver notre énergie ancestrale et se mettre en résonance avec la note musicale de notre appartenance familiale.
Alors moi je viens d'une famille à mythologie forte, très forte. Parce que dans la famille de ma mère, à partir du début du 19e siècle et jusqu'en 1907, lors du mariage de mes arrière-grands-parents, la très grande majorité des mariages s'est faite entre cousins germains et cousins issus de germains. Il y a même, au début du 19e siècle, un oncle qui a épousé sa nièce. Donc, si vous voulez, sur sept mariages dans une fratrie, il y en a environ quatre qui sont dans la même famille. Ce qui fait que dans mon arbre, je n'ai que rarement eu besoin de mettre les noms de famille des conjoints. C'est un arbre où il n'y a pas de nom de famille, pour ainsi dire, puisque le nom est le même. Alors, je pense, c'est une chose qu'on a toujours su dans la famille, et on en a toujours parlé d'une façon assez claire. On se mariait entre nous parce qu'on se comprenait, et ce qui est une très bonne raison, mais tout a des limites, je pense. Et à force de faire du même avec de l'autre, parce qu'au fond, ça revient à ça, je pense que ça a conduit certains hommes à une incapacité à supporter, en fait, le poids du passé. Parce que tout ça s'est fait, oui, quand même, durant un siècle, ce qui est considérable. Et mon arrière-grand-père, qui était un grand voyageur et entomologiste, est allé trouver une femme en Hongrie, donc qui était très loin de lui. Ils étaient peut-être vaguement cousins d'ailleurs, mais enfin, à l'époque, c'était pas rare, mais c'était loin. Lui était en Angleterre. Bon, et ça a été un grand amour avec cette femme qui était très forte et exceptionnelle, qui était une championne de tennis en 1900 et qui était très belle, mais il s'est suicidé. Et je crois qu'il n'a pas supporté d'une certaine façon, enfin c'est comme ça que moi je l'interprète, de rompre le système familial. Et d'ailleurs, à la génération de mon grand-père ou de ma mère, on voit que ceux qui vont se marier loin, ça ne se passe pas toujours bien. Donc il y a un schéma familial qui est de se marier entre nous, donc ça c'est pas bien, hein. Et puis en même temps, ça préserve la vie, et quand on enfreint cette loi familiale, il se passe souvent des choses compliquées. Ma mère est allée chercher mon père très loin, et mon père est mort. Mais remarquez, moi je suis allée chercher mon mari très près de moi, pas dans ma famille, mais très près, et il est mort aussi. Donc, c'est pas des lois mathématiques, mais je pense que ces hommes ont eu beaucoup de mal à faire autrement que ce qui était prévu par leurs ancêtres.
Ma méthode de travail, c'est de demander aux gens de raconter leur histoire familiale et de suivre sur eux les expressions d'émotions du corps, comme la rougeur, la blancheur, une toux, un raclement de gorge, un changement de couleur de peau, un changement de rythme respiratoire, et de leur demander à ce moment-là, à chaud, à quoi ils pensent, qu'est-ce que ça les fait penser. Et là, on découvre des choses extraordinaires. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pars d'une hypothèse. C'est l'hypothèse de Bluma Zeigarnik, qui est une psychologue russe qui a travaillé avec Kurt Lewin à l'Institut de psychologie de Berlin en 1928. Et qui a fait des recherches sur les tâches achevées et interrompues. Et elle a donc démontré que les tâches inachevées ou interrompues, on les rumine pendant très longtemps. Et pour moi, je considère qu'un deuil non fait, un traumatisme non parlé, c'est un traumatisme qu'on va ruminer de génération en génération. Et on passe la patate chaude, comme disent les Américains, de hot potato, de génération en génération, jusqu'à ce qu'on trouve. Alors, on le voit jusqu'à 4 générations et plus. J'ai vu des choses qui duraient depuis près de 1000 ans. 1000 ans, c'est beaucoup. Vous voulez que je vous raconte ?
Oui.
Je fais une conférence sur le transgénérationnel, exceptionnellement en Allemagne une fois. Et on me demande de faire une démonstration dans la salle. Parfait. Je demande à une dame de venir. Alors elle vient, on commence à travailler avec elle, et elle me dit que l'un de ses problèmes, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, mais qu'elle a vérifié, elle est parfaitement fertile et son mari aussi. Bien. On commence à faire son génosociogramme, c'est-à-dire un arbre généalogique sur lequel on met des liens affectifs et des événements importants, ce qu'on appelle en anglais des life events. Alors très bien, profession du père militaire, profession du grand-père militaire, profession de l'arrière-grand-père, elle me dit « je vous arrête, on est militaire chez nous depuis toujours ». Je dis « ah ». Toujours, puis les croisades, oui, puis les croisades. Et là, il me revient, alors, je fais une parenthèse technique. Je suis psychanalyste et je travaille avec mon inconscient. Et donc, quand je pense à quelque chose, et que je pense que ce quelque chose auquel je pense peut être utile, je le dis. pensant que ça fait avancer le travail. Et moi, je pensais à un livre que j'avais lu qui s'appelait « Les croisades vues par les musulmans ». Et je lui dis, j'ai lu « Les croisades vues par les musulmans », je crois que c'est Tahar Ben Jeloun, si ma mémoire est bonne, et il dit que les croisés prenaient les pieds des enfants et leur cassaient les têtes contre les murs de Saint-Jean d'Acre en particulier. Et cette femme se met à hurler. Les croisades, c'est pas hier. Hein. Alors, je la laisse hurler, je la laisse pleurer, et je dis, vous croyez qu'il peut y avoir un rapport? Elle me dit, oh, je le sens. Très bien. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? Et là, c'est très important de ne pas proposer une réparation, mais de demander aux gens ce qu'ils peuvent dire. On ne sait jamais, jamais, jamais ce qu'ils vont dire. Alors, cette femme dit, il faudrait chanter une berceuse en arabe. Je ne parle pas arabe. Un congrès de thérapie familiale. Enfin, je tente ma chance, j'ai en général de la chance. Je demande dans la salle, est-ce que quelqu'un connaît une berceuse arabe? Il y avait une sage-femme yéménite qui faisait de la thérapie familiale. Elle nous chante la chose, nous reprenons en chœur. La femme se calme et un an après, elle m'envoie une carte postale. Elle a eu un enfant. Quelque part, il y a eu réparation et deuil de ce traumatisme ou cet événement dramatique familial. Pour moi, toute mort violente est un événement traumatique. Que l'on soit un bourreau ou une victime, ça n'a pas d'importance. Et quelquefois, ça se retransmet. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup retransmettre. Voilà un exemple. Donc, je pense, j'en ai aucune certitude, bien entendu, je ne peux pas le vérifier, que cette femme avait un ancrage de mémoire familiale d'une mort d'enfant dramatique au moment des croisades. Les croisades, ça fait bien 1000 ans, non ? Quelque chose comme ça. Enfin, chipotons pas sur quelques années. Donc, c'est pas une preuve absolue, mais pourquoi elle s'est mise à hurler comme ça ? Il n'y a pas de raison.
Avec Françoise Dolto, j'avais compris qu'il fallait travailler trois générations pour comprendre la psychose de l'enfant. Et dans le cas d'un autisme, il en faut quatre. Hein ? Comme dans la Bible, pour comprendre comment les patriarches, qui sont trois dans le tombeau, vont créer, là dans ce cas-là, ils transmettent si bien le souffle divin, qu'ils vont créer un génie, Joseph. Hein ? Mais vous avez le trois ou quatre.
Voilà. Donc pour vous, effectivement, la lecture que vous faites de la Bible, Didier Dumas, c'est de retrouver un savoir transgénérationnel à travers la Genèse, notamment.
La Genèse ne parle que de ça. La Genèse ne parle que de ça. Et la Genèse, c'est quand même l'introduction du livre. Hein. Toute la Genèse est une illustration du cinquième verset dans lequel Dieu se présente en disant « Je suis ». C'est comme si à notre époque, il disait « Je suis l'inconscient hein. ». Je suis l'instance responsable du fait que les défauts de parole des pères, les fautes, se transmettent sur trois ou quatre générations. Alors, ce qui a été bouleversant pour un analyste, c'est de découvrir dans la Genèse, un, ce que moi j'ai mis 10 ans à comprendre en travaillant avec des enfants psychotiques, et deux, que toute la théorie analytique contemporaine, sitôt qu'elle est devenue transgénérationnelle, est dans la Genèse. En premier, la forclusion du nom du père. Historiquement, c'est comme si Caïn et Abel sont faits en matrilinéaire avant l'arrivée du patrilinéaire qui va donner le patriarcat. Hein. Il n'y a jamais eu de matriarcat. Il y a eu du matrilinéaire ou patrilinéaire. Donc, la conception de Caïn et Abel. Alors, le texte dit, tous les autres enfants conçus, quand un patriarche fait un enfant, il fait faire un enfant à sa femme. Hein. On fait des enfants pour des hommes dans la Bible. Alors, les femmes, hein, la Bible est très misogyne. Hein, les femmes elles font des enfants pour les hommes. Point final. Pour les deux premiers garçons, Adam pénètre sa femme Et Ève crie « J'ai fait un mec avec Dieu, j'ai piqué un mec à Dieu ». Donc elle n'a pas fait son enfant avec Adam, elle n'a pas la conscience qu'elle l'a fait avec Adam. Et donc Caïn va devenir le paranoïaque, le premier paranoïaque, le gigolo à sa maman, l'intégriste, hein, qui n'aime qu'une couleur de peau, celle de sa mère. Tout ce qui n'a pas la couleur de peau de sa maman, c'est diabolique. Donc Caïn va devenir le phallus à sa maman paranoïaque. Et ensuite, le texte continue, à la traduction de Chouraki, elle ajoute « enfanter rien ». À savoir que Abel veut dire rien, mais veut dire également l'abus et. Donc vous voyez, en voie du verbe, c'est du rien dans le langage. Voilà. Donc Abel est destiné à être le schizophrène, celui en trop. On ne l'a pas prévu dans l'ordre du langage, on ne sait pas quoi en faire. Et qu'est-ce que fait Caïn ? Il met en acte le fantasme de sa mère. Il transforme un rien en rien du tout. Hein ? Ensuite arrive la condamnation de Caïn. Alors là, c'est très intéressant, parce que c'est une des parties du texte que personne n'a jamais compris, même pas nos bons prêtres, on ne nous explique pas ça. On se demande comment se fait-il que Dieu ne condamne pas Caïn à mort, en oubliant tout simplement une chose, y compris dans la traduction écuménique, que Dieu n'a fait que des êtres immortels. Hein? Il ne peut pas condamner Caïn à mort. Une âme n'est pas mortelle dans la Bible, ce n'est pas possible. Donc l'âme de Abel est là, elle crie du sol, donc il est là, dans son âme. Et donc il engueule, il commence par engueuler Caïn qui lui répond « Je suis pas le gardien de mon frère ». Il dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends pas compte, la terre ne te nourrira plus, tu as fait une catastrophe ». Et à ce moment-là, Caïn se rend compte qu'il a fait une catastrophe. Il lui dit « Mais alors, tu vas me chasser ? Je ne pourrai plus, je vais plus pouvoir me référer à toi, ce qui est terrible pour Caïn. Et puis quiconque va me trouver me tuera. » Et à ce moment-là, Dieu met un signe sur Caïn en disant « Quiconque tuera Caïn sera tué cette fois. » Si Caïn est tué, il sera vengé cette fois. Alors, évidemment, là, on ne comprend pas très bien de quoi il est cause. Le 7... Dans la Bible, la symbolique du 7, c'est la symbolique de la cyclique terrestre, l'activité de la terre. Le 10 symbolisant l'activité divine, 10 commandements. Et alors que le 7, il faut 7 jours pour qu'Adam reprenne la parole à son compte. Donc on est dans l'activité de la terre. Donc là, on nous dit que ce qui se passe est dans l'ordre de l'activité de la terre. Et puis le texte continue, il vous donne la descendance de Caïn. Et à la 7e génération, qu'est-ce qui se passe? Il y a un papa qui s'appelle Lamech, qui a 2 femmes, et qui met au monde un enfant qu'il appelle Tubal Caïn. Et on vous montre qu'avec le retour du nom de l'ancêtre meurtrier, le papa fait une psychose puerpérale, puisque dans la Bible, c'est une histoire de père. Même, hein, c'est la transmission du souffle divin par les pères. Il fait une psychose puerpérale, il appelle ses 2 femmes, « Ada et Sila, venez me voir, j'ai tué un enfant pour ma blessure, un enfant pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois, je serai vengé 77 fois. » C'est-à-dire qu'on vous montre que non seulement le fantôme se transmet jusqu'à la 7e génération, ce qui est important parce que c'est ce qu'on trouve dans la clinique, et que c'est à ça que Caïn a été condamné. Au lieu de pouvoir rejoindre Dieu, il est condamné à errer comme un fantôme, ce qui est une réalité de toutes les pensées anciennes de l'esprit.
La médecine occidentale du XXe siècle, en réduisant la mort à la conception matérielle du cadavre, a évacué du même coup la place des ancêtres. Cela a été fait de manière si puissante qu'émergent aujourd'hui, en réaction, de multiples tentatives pour reconnaître l'influence qu'exercent sur nos destinées nos ascendants. Place est rendue à la transmission de la mémoire familiale. On assiste en quelque sorte à un retournement des morts. On redécouvre du même coup le pouvoir protecteur des ancêtres. Il ne s'agit sûrement pas d'une tendance macabre à se complaire dans la compagnie des morts, mais d'un appel d'énergie qui veut retrouver la vigueur de la lignée dont nous sommes tous porteurs. Anne Ancelin-Schützenberger.
Il y a très peu de techniques psychothérapiques qui sont à la fois verbales, d'interaction et motrices. Et le psychodrame est l'une des... Le psychodrame bien fait, parce qu'il y a beaucoup de psychodrames mal faits, ce qui est autre chose. Le psychodrame bien fait est une technique qui permet à la fois, par exemple, de parler de ses rêves et de jouer ses rêves. Et si on joue ses rêves et on les met en scène, il sort autre chose que quand seulement on en parle. Si vous me dites, par exemple, j'ai été mordu par un chien, comme les amis de mes parents, je raconte un cas clinique réel, j'ai été mordu par un chien que les amis de mes parents n'ont pas tenu en laisse et je leur en ai beaucoup voulu, ils ne m'ont pas protégé. C'est une chose. En psychodrame, on va dire, on va le mettre en scène. Dans le psychodrame analytique, si moi je fais le chien, par exemple, je vais vous dire, je vous mords. Et en psychodrame en vrai, Morénien, je vais prendre ma main, je vais la mettre sur la vôtre, et je vais appuyer. Ma main n'est pas des dents. Je ne vais pas vous mordre en vrai. Mais votre corps va sentir la pression, et la différence pour vous est énorme. En particulier parce qu'il y a des décompensations quand le monde ne correspond pas à votre vécu. Si je vous dis « je vous mords » ou que votre corps sent une pression, ce n'est plus la même histoire parce que votre corps va se rappeler des choses qui ne se rappellent pas seulement avec des mots. Il se rappelle beaucoup de choses avec des mots, mais encore plus avec un toucher.
Didier Dumas.
La réalité, c'est que la psychanalyse a mis quasiment un siècle à retrouver quelque chose qui est la conception de l'esprit de toutes les traditions anciennes. Pour les anciens, l'esprit était une réalité palpable. Donc ces gens-là ont beaucoup plus travaillé que nous. Alors sur le plan de la technique, oui, à l'heure actuelle, on va dans la Lune. On a beaucoup progressé depuis Sumer. Par contre, sur le plan spirituel, sur le plan de ce que nous sommes, nous, on est êtres humains, quand on a les tablettes, les lettres personnelles des gens de Sumer, des Grecs, on s'aperçoit qu'on n'a pas progressé d'un poil. Et que de ce côté-là, les anciens en savaient plus que nous. Hein? Alors, plutôt que de croire qu'on a tout réinventé, je pense qu'il vaut mieux aller chercher chez les anciens. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai mis 10 ans... À comprendre ce que c'était le transgénérationnel et le fantôme en travaillant avec des enfants psychotiques. Et puis, je vais faire une école d'acupuncture. Ils n'arrivaient même pas à comprendre que ce ne soit pas dans l'analyse, mes copains sinologues et acupuncteurs. J'ouvre la Bible et je tombe là-dessus. Voilà. Hein? Donc, voilà pourquoi je vais chercher les savoirs anciens et voilà pourquoi je fais du chamanisme. Bon, alors, ce que disent toutes les traditions, c'est que si le mort reste sur Terre, il nous pompe de l'énergie. Donc s'il y en a toute une grappe qui s'est agglutinée dans les générations, là, ça peut faire des symptômes très très graves. Donc ça, c'est ce que je suis allé apprendre dans le chamanisme. Hein? Et à ce niveau-là, ce qui est important de repérer, c'est que le fantôme n'est pas le mort. Hein? En aucun cas. Le fantôme est une structure, disons, fait d'énergie, fait d'affect. C'est une structure émotionnelle, relationnelle, qui est celle qui nous permet de créer des relations familiales, des relations collectives. C'est cette structure qu'on maintient. Et c'est précisément ce que les Chinois appellent les po, la partie terrestre de l'âme qui correspond à toutes les fonctions moïques du corps. Hein? C'est cette partie... Si à la mort, les peaux, qui est la partie terrestre de l'âme, ne retourne pas à la terre, c'est ce qui crée cette structure qui permet aux morts de rester accrochés aux vivants. Et quand on va travailler là-dessus, alors cliniquement parlant, il faut d'abord travailler avec les vivants, parce que la structure est maintenue des deux côtés, hein, ne serait-ce qu'inconsciemment. C'est quelque chose que j'ai fini par introduire dans ma pratique. Donc je suis allé dans le chamanisme pour apprendre à savoir envoyer les gens dans la lumière. Et ça, maintenant, je sais faire. Hein? C'est-à-dire que quand quelqu'un montre sa généalogie, hein, pour moi, il faut toujours commencer par tout le travail qu'on peut faire objectivement. Donc quand on fait faire à quelqu'un son arbre, on va trouver un certain nombre d'ancêtres dont on pense, en général les gens le savent, c'est ça qui est très étonnant. Vous demandez à quelqu'un pour la première fois, ben, est-ce que vous pensez qu'il est dans la lumière, il vous dit oui ou non. Hein? Donc ils ont, c'est leur corps, c'est leur famille, c'est leur structure mentale, tout ça. Donc ça leur appartient, ils ont le droit de travailler là-dessus. Hein? Et donc, ils savent s'il y a des enfants qui n'ont pas été enterrés. Puis souvent, on les trouve en faisant les arbres, parce qu'ils ont été effacés. Dans les arbres, les personnes les plus effacées, et le plus fréquemment, c'est les enfants morts, dont on n'a pas porté le deuil, et les personnes qui sont mortes en hôpital psychiatrique. Et souvent, c'est pour ça qu'il est très important d'aller faire son arbre en cherchant toutes les informations dans les mairies, parce que vous découvrez des tas de gens que vous ne connaissez pas. Ça aussi, ça fait un bien fou. Vous voyez, de réunir toute sa famille dans sa tête, ça fait un bien fou. Et puis, vous trouvez des tas de gens qui ont été complètement éliminés de l'histoire. Et c'est ceux-là qui donnent des fantômes. C'est ceux-là qui errent, en général, puisqu'il n'y a plus personne pour penser à eux. Quand on pense à un mort, on lui envoie de l'énergie de déplacement. Quand on lui en veut, on le retient. Voilà, et alors les effets corporels sont étonnants, hein? Les effets corporels. Moi, je demande maintenant à mes clients d'écrire ce qui s'est passé, hein? Et puis surtout d'écrire les effets qui vont venir après, qui sont des effets de corps.
À l'heure actuelle, on est bien obligé de se débrouiller avec les plaies ouvertes. Moi, j'appelle ça quelquefois des chantiers, le chantier des fatras que nous ont laissé nos ancêtres. Si je prends quelque chose d'ordre politique, si vous voulez bien, nous avons eu d'histoires tragiques en Europe centrale, ces temps-ci, entre les musulmans et les chrétiens, autour du Kosovo. Mais pour des gens comme moi, le drame du Kosovo qui était en 1389, ça fait une paye, ben, ils n'ont toujours pas enterré leurs morts, ils n'ont toujours pas enterré leur histoire, et au moindre truc, le drame éclate tant qu'on ne va pas voir ce qui s'est vraiment passé sur les batailles des champs du Kosovo. La bataille du Kosovo, 1389, si vous. Ça fait quoi, 600 ans? Quelque chose comme ça. Eh bien, c'est pas fini. Mais tant qu'on ne résout pas le problème d'origine, il est très difficile de fermer une plaie. Mais on peut le résoudre par une demande de pardon ou par un acte de contrition, même symbolique. Par exemple, je pense que quand le roi d'Espagne va à Jérusalem demander pardon aux Juifs de les avoir brûlés pendant l'Inquisition, il fait un acte symbolique et quelque part, ça doit faire. Ça fait parvenir les gens brûlés, bien sûr, mais ça fait peut-être diminuer la haine entre les peuples. Ben, il faudrait bien qu'elle s'arrête, cette haine. Thank you.
Je crois que quand on est psychanalyste ou médecin ou infirmière ou travailleur social, on s'aperçoit très rapidement qu'on est dans la réparation. Et il y a beaucoup de gens qui font partie de ces professions, qui en ont parfaitement conscience et qui en sont contents de cet état de réparateur.
Dad de Gainsbourg.
Et je crois que c'est surtout ça que l'arbre m'a appris, enfin le travail transgénérationnel, c'était que être dans la réparation, c'est rester dans une position d'enfant thérapeute de sa famille et de rester en lien avec toutes les transmissions, toutes les identifications et tous les fantasmes qui ont été aliénants. Alors, on se dit, je rends le bien pour le mal, en gros. Mais ça, c'est une façon de rester enfermé dans sa famille et de ne pas pouvoir en sortir, parce que tout ce qui est fait à ce moment-là est fantasmatiquement dirigé vers la famille. Alors la famille, elle est partout. Elle est ailleurs, dans les patients, dans les clients, dans le... Et on se retrouve à réparer sans fin une famille qui n'a rien demandé d'abord, et à être en dette, à avoir une dette. Bon, on a une dette symbolique envers ses parents. Et si on répare sans arrêt, on reste dans cette dette qui, à ce moment-là, cesse d'être symbolique. Et on rend, on fait du bien, tout ça, c'est très joli. Mais on ne se sort jamais de sa place d'enfant thérapeute. Et je crois que souvent, les gens qui viennent en analyse ou qui vont faire un travail transgénérationnel sont dans cette situation-là d'enfants thérapeutes de leur famille. Et c'est parce que ça leur pèse très lourd qu'ils ont besoin d'en parler et besoin d'être écoutés sur ces points-là. Et je crois que c'est très important de se rendre compte que la dette doit rester symbolique vis-à-vis des parents et que ce qu'on a à transmettre, on a à transmettre à nos enfants. Parce que sinon, Dolto disait, c'est comme une rivière qui retournerait à sa source. Et c'est, je crois, l'inverse de ce qui est souhaitable dans la vie.
Le corps ne fait, et l'inconscient, aucune différence entre la réalité historique et la réalité corporelle d'un surplus de réalité. Et donc, on recrée une mémoire corporelle positive à la place de quelque chose qui était une plaie béante. Ça, c'est l'un des travaux qu'on fait quand on fait de la réparation transgénérationnelle. On peut faire un acte symbolique, mais on peut mettre une lettre sur une tombe, on peut planter un buis ou un rosier dans un vrai cimetière, on peut faire des choses réelles. Et le corps ne réagit pas pareil. Ça change complètement le passé de s'imaginer des parents agréables qui ne vous battent pas, une mère qui vous comprend et qui s'excuse, par exemple. Et donc, on fait ça en complément de mémoire psychocorporelle affective. Et ça marche. On passe au-delà d'un traumatisme quand on dit, dans le langage courant, il faut débrider une plaie, il faut faire sortir le pus, il faut permettre la cicatrisation. Et la plaie se referme. Tant que la plaie n'est pas refermée, ben elle suinte de génération en génération. Je n'utilise pas le mot suinter par hasard. On dit que l'inconscient suinte par tous les pores. Ça s'appelle en anglais « leakage ». Et moi, je travaille sur les suintements de la mémoire affective passée.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale, la voix des ancêtres, avec Anne Ancelin-Schützenberger, Dade de Gainsbourg, Didier Dumas. Groupe de réalisation, Éric Gérard, Jean-Louis Delongre, Marie-Dominique Bougot, Claude Giovanetti. Une émission de Bénédicte Niogret.
C'était la psychogénéalogie, première partie, la mémoire familiale, une enquête dans le monde du transgénérationnel, diffusée le 30 juillet 2005.